Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon et Rosalie Suc, mais aussi Hélène François et Bertie Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Élise Le et Claire Vulliot. Dernier volet de notre série consacrée à l'Union européenne. Après avoir évoqué lundi le faux départ de la future commission présidée par Ursula von der Leyen, mardi les défis environnementaux qui attendent l'Europe, mercredi les outils permettant de soutenir son économie, aujourd'hui jeudi 31 octobre, une date qui aurait dû être celle du Brexit, jusqu'au nouveau report obtenu lundi par Boris Johnson, on va s'interroger sur l'avenir des 27 après le départ du Royaume-Uni. Recommencer à 27, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
En partant, les Britanniques ne peuvent pas nous demander d'affaiblir ce que nous sommes. C'est eux qui quittent l'Union européenne, ce n'est pas nous qui les quittons. Le deal, comme on dit, ce n'est pas la fin de l'histoire. Pour moi, le plus important, c'est la reconstruction. Nous devons reconstruire une relation.
Le Brexit, ce n'est pas quelque chose que nous avons voulu, mais nous respectons la décision prise par nos amis britanniques, par le Royaume-Uni. Le Brexit, tel qu'il doit advenir, n'est pas la fin de quelque chose, mais plutôt le début de notre future relation avec le Royaume-Uni.
Paradoxalement, le Brexit a aussi montré à chacun la valeur qu'il y a dans cette union. Et nous devons, ce faisant, comprendre que notre Europe doit précisément être refondée pour être mieux comprise de nos peuples et répondre à leurs aspirations. Parce que, très clairement, le Brexit nous dit qu'elle n'a pas su rassurer, protéger suffisamment les peuples de chacun de nos pays.
Dans l'ordre, Michel Barnier, mandaté par la Commission européenne pour négocier avec le gouvernement britannique la sortie du Royaume-Uni, Ursula von der Leyen, la future présidente de la Commission, et puis Emmanuel Macron. Lorsqu'en juin 2016, les Britanniques ont voté en faveur d'une sortie de l'Union, les Cassandres ont rapidement envahi les colonnes des journaux et les plateaux télé. Le départ de la Grande-Bretagne aurait un effet domino en pleine vague eurosceptique et l'Union ne tarderait pas à imploser. 3 ans plus tard, pourtant, on est loin du drame attendu. Si les négociations sur les modalités du divorce sont ardues, elles ont montré des Européens soudés face au Royaume-Uni avec des projets d'accord toujours plus faciles à accepter du côté de Bruxelles qu'à Westminster. Les europhobes du continent, observant le chemin de croix que subissent les dirigeants britanniques depuis le référendum, ont considérablement adouci leur discours. Si critiquer l'Europe fait toujours recette, très rares sont ceux qui, désormais, se risquent à encore prétendre vouloir la quitter. Mais cette unité retrouvée, peut-être plus pragmatique qu'idéologique, ne doit pas faire oublier que des dissensions réelles ont conduit au Brexit et qu'en l'absence de réforme, elle pourrait ressurgir à tout moment. En effet, si le départ du Royaume-Uni doit s'analyser dans le cadre du rapport très particulier qu'entretenait celui-ci avec l'Union, il est difficile de ne pas y voir malgré tout un échec pour la construction européenne. La cohésion des 27 lors des négociations sur le divorce survivra-t-elle à celle qui s'annonce encore plus complexe sur la relation future ? Avec le Royaume-Uni, l'opportunité représentée par le départ d'une Grande-Bretagne systématiquement réfractaire à plus d'intégration permettra-t-elle de compenser la perte d'un État économiquement puissant, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU ? Et est-ce qu'il y a des leçons et lesquelles à tirer de ce Brexit pour imaginer cette Europe de demain ? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité Yves Bertoncini, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes consultant en affaires européennes, président du Mouvement européen France, enseignant à Sciences Po Paris. À nos côtés, depuis Grenoble, Christophe Bouillot, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup.
En fait, depuis Lyon.
Depuis Lyon, voilà. Et professeur à Sciences Po Grenoble, c'est juste.
C'est vrai.
Voilà, c'était ça, la petite erreur. Merci en tout cas d'être avec nous ce matin. Je vais commencer avec ici Paris, puis ensuite on ira du côté de Lyon. Peut-être un mot, Yves Bertoncini, sur le nouveau report. Parce qu'alors que les parlementaires britanniques se sont enfin mis d'accord pour organiser de nouvelles élections, ce sera le 12 décembre prochain, les Européens, eux, se sont accordés sur un nouveau report du Brexit. Ça sera donc le 31 janvier prochain, enfin, peut-être. Mais si on revient un tout petit peu en arrière, Yves Bertoncini, il n'y a pas si longtemps, on entendait des Européens qui refusaient absolument d'envisager tout nouveau report. Alors comment interpréter ce troisième report ? Est-ce que c'est une faiblesse ? Est-ce que c'est le signe que finalement peut-être que les Européens ne sont pas tout à fait autant en posture de en position de force qu'on a parfois pu le décrire ? Enfin, comment vous voyez les choses ?
Ce nouveau report, c'est d'abord le signe que les Britanniques sont divisés. Il y a un problème britannico-britannique, puisque les Européens qui ont accepté ce divorce, hein, qu'ils n'ont pas demandé, mais enfin, les Britanniques ont voté pour partir, il faut donc qu'ils s'en aillent, sont confrontés depuis lors à des Britanniques qui sont divisés.
Ça, c'est sûr. Côté britannique, on le dit depuis longtemps. Mais côté européen, comment interpréter ? On avait dit non, pas de report. Finalement, report, il y a...
Alors, quand vous dites... Les Européens regardent les Britanniques, négocient, essayent de conclure un accord. Il y a eu une première version, mais qui n'a pas pu être ratifiée. C'est pour ça que, faute de privilégier le saut dans le vide, c'est-à-dire la sortie sans accord, que ni les Européens ne souhaitent, ni le Parlement britannique, parce que c'est un des rares points, je dirais, de consensus à Westminster, pas de no deal, pas de non-accord, eh bien, ils en sont réduits à accorder des délais supplémentaires. Alors, vous dites, on a beaucoup entendu pas de délai. On l'a beaucoup entendu en France. On l'entendait moins en Europe. Il y a des pays qui, de toute façon, depuis le départ, disent qu'il est exclu d'avoir un divorce non ordonné, d'un no deal, qui sont un peu plus pragmatiques, peut-être un peu plus philo-britanniques que nous français. Il y avait aussi, dans ce refus de principe d'un nouveau délai, une forme de pression qu'on mettait sur le Parlement britannique, et d'une certaine manière, c'était pour rendre service à Theresa May d'abord et Boris Johnson ensuite, afin que les parlementaires britanniques avalent la pilule. Alors, pourquoi ils ne l'avalent pas? Parce qu'au fond, il y a une division britannique. Il y a déjà eu une première division 52-48 entre ceux qui voulaient partir et ceux qui voulaient rester. Bah, les 48% qui voulaient rester, ils n'ont pas disparu et parfois ils sont représentés à Westminster. Mais surtout, il y a à Westminster une division entre ceux qui veulent partir parce qu'ils ne veulent pas tous aller au même endroit. Donc c'est vrai que c'est très difficile d'accoucher d'un oui parlementaire britannique. Il faudra peut-être attendre les nouvelles élections pour y arriver.
Christophe Bouillot, en se plaçant toujours du côté de l'Union européenne, c'est le choix qu'on a fait ce matin. Comment est-ce que vous interprétez ce nouveau report? Yves Bertoncini rappelait peut-être à juste titre qu'effectivement tout le monde n'était pas complètement opposé à l'idée d'un nouveau report, mais si on prend par exemple un autre sujet, celui d'un nouvel accord, de la même manière après la démission de Theresa May, les Européens avaient dit non, il n'y aura pas de nouvel accord, et finalement il y a eu un nouvel accord. Est-ce que, là encore, Christophe Bouillot, comment interpréter cette chose? Est-ce que, finalement, les Européens se sont montrés, et pourquoi, plus souples qu'on aurait pu l'imaginer?
Moi, je pense fondamentalement, c'est pour des raisons économiques très concrètes. C'est-à-dire que personne n'envisageait, du côté européen et du côté des acteurs économiques importants en Europe, l'idée d'un véritable no deal. Ça serait une catastrophe très difficilement gérable pour nos industries, nos services, etc.
Et donc par pragmatisme, finalement.
Oui, par pragmatisme et aussi pour des raisons très techniques, simplement d'organisation logistique du continent européen où il est hors de question d'avoir un no deal. Il y avait à la fois l'aspect industriel, il y a l'aspect statut des personnes, et en particulier des Britanniques sur le sol européen et inversement. Et puis il y a le statut financier de la Grande-Bretagne qui doit quand même à l'Union européenne le solde de tout compte. Donc c'était inenvisageable, et le principal pays de l'Union européenne, l'Allemagne, était vent debout contre cette idée.
Yves Bertoncini, j'ai vu que vous vouliez réagir, vous allez pouvoir le faire librement, mais je me permets quand même d'avancer et peut-être de vous proposer de nous interroger aussi sur la question de cette unité européenne, parce que c'est vrai qu'au lendemain du référendum, un certain nombre de personnes ont craint que les Européens ne soient fortement divisés sur cette affaire-là. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Les Britanniques ont été surpris d'une certaine manière, à la fois par l'unité européenne, mais aussi par son flegme. Je reprends les propos très bien exposés par Jean Quatremer dans un article au début de la semaine dans Libération. Est-ce que vous aussi, vous avez été surpris par cette unité européenne face à ce Brexit?
Alors, deux choses. Il y avait eu la fameuse une de The Economist qui montrait l'effet domino. Il va y avoir d'autres Brexit. Pour moi, c'était de la foutaise, parce qu'il faut prendre au sérieux la spécificité britannique. Il y a eu une spécificité insulaire, historique, qui a fait que ce pays a basculé vers la sortie. Ils étaient déjà mal à l'aise dedans. Bon, voilà. Bref. Pour ce qui est des Européens, il y a eu d'abord un sursaut. Je crois qu'Emmanuel Macron le disait dans le son que vous avez diffusé au début. Parce que les peuples ont vu que, oui, effectivement, c'est possible de sortir. C'est pas une prison, l'Union européenne. C'est possible, mais c'est très difficile. Et au fond, puisque ça devient autre chose qu'une virtualité, puisque les Britanniques empruntent ce chemin, qu'on voit bien que c'est un chemin pavé d'embûches, eh bien, ça a resserré les rangs. Il y a aujourd'hui d'ailleurs un taux de sentiment d'appartenance jamais vu. Et pour ce qui est de la négociation,
Yves Bertoncini concédait que c'est particulièrement difficile pour la Grande-Bretagne. parce que la frontière nord-irlandaise.
Oui, parce que la frontière nord-irlandaise. Tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Oui, mais bien sûr, mais c'est difficile dans tous les cas, parce que même du point de vue de l'interdépendance économique, mentionné Christophe Bouillon, même si ils sont les moins interdépendants finalement, c'est l'un des rares pays avec la Grèce qui fait à peine la moitié de son commerce avec le reste des pays européens. Enfin, couper ces liens-là, c'est très coûteux. Alors, on peut le faire pour des raisons notamment émotionnelles, c'est ça. Le Brexit, c'est aussi quelque chose d'un peu émotionnel. Il y a un malaise dans la relation, on s'en va. Mais il y aura des coûts que, visiblement, les Britanniques sont prêts à assumer et que les Européens veulent réduire au minimum. Alors, ils ont été unis dans cette phase 1 de la négociation parce que, effectivement, Michel Barnier avait fait ça très bien. D'ailleurs, les Britanniques nous doivent 40 milliards d'euros. Alors, est-ce qu'on exige qu'ils nous les rendent? Oui, non. Parce que sinon, qui accepte de payer à leur place? Ou qui accepte de moins recevoir, puisqu'ils ne vont pas nous donner les 40 milliards d'euros.
Oui, donc c'était facile d'être
unis.
Ah
oui, alors l'unité était instinctive. Il y avait aussi la protection des ressortissants européens en Grande-Bretagne et britanniques chez nous. Et puis enfin, effectivement, cette affaire d'Irlande, d'Irlande du Nord, qui met les Européens dans une solidarité instinctive avec l'Irlande, qui est un pays membre, alors que la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord s'apprêtent à partir. Et donc, c'était facile, je dirais, même s'il a fallu le talent de Michel Barnier, de souder les rangs, d'autant que, dernière chose, dans le même calendrier, il y a eu un paysage géopolitique mondial qui est devenu adverse. Et je pense notamment à l'élection de Donald Trump qui a fait qu'il fallait serrer davantage les rangs. Et donc, ça n'a pas aidé les Britanniques, sans doute.
On va évidemment se pencher sur les difficultés relatives à ce futur des relations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Peut-être que justement, cette belle unité pourrait voler en éclats. On va l'évoquer dans un instant. Mais Christophe Bouillot, sur le scénario qu'on avait envisagé, qui finalement n'a pas eu lieu, celui de l'effet domino. On avait fait d'ailleurs ici même, je crois que c'était avec vous d'ailleurs, Yves Bertoncini, une émission consacrée à cet effet domino. Il n'a pas eu lieu, Christophe Bouillot. Comment le comprendre? Comment vous l'interprétez?
Moi, fondamentalement, par le fait que, au niveau des forces sociales et économiques, dans les différents pays européens, en réalité, personne ne veut partir. Au sens où n'a pas d'intérêt fondamental économique ou culturel à partir. Vous prenez le cas italien, finalement, on voit très bien qu'on a une opinion qui est maintenant très eurosceptique, qui vote pour des partis eurosceptiques, mais derrière les forces économiques de l'Italie, dans les mêmes régions où on vote beaucoup pour les forces eurosceptiques, sont complètement hostiles à une sortie de l'Union européenne et une sortie de la zone euro. Donc en fait, là, ce que le Brexit révèle, c'est en fait un écart entre, finalement, l'électorat, qui peut voter mal ou voter en fonction de critères émotionnels. Et de l'autre côté, les forces sociales organisées, c'est-à-dire les syndicats, le patronat, les associations, les universités, qui en fait ne veulent pas de ça. Donc finalement, et pourquoi ils ne veulent pas de ça? Parce que fondamentalement, l'Union européenne, telle qu'elle est, un grand marché, etc., profite à l'ensemble des acteurs économiques.
Et est-ce que Matteo Salvini aussi a fini par être convaincu par cette idée? Il ne veut plus sortir, il en a beaucoup parlé. D'abord, il était très critique évidemment vis-à-vis de l'Europe, il a même envisagé l'idée d'un Italexit. C'est terminé ça, même chez Matteo Salvini?
Oui, bien sûr, parce qu'il a déclaré récemment que l'euro était irréversible. Donc si l'euro était irréversible, on va pas sortir de l'Union européenne. Et pourquoi? Parce que il se sent proche du pouvoir national et il sait très bien que les forces économiques en Italie, toutes les entreprises, sont pour rester dans la zone euro. Il n'y a aucune demande. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un phénomène d'indépendantisme, d'une certaine façon, vis-à-vis de l'Union européenne, sans force économique ou culturel organisé. C'est aussi pour ça qu'en Grande-Bretagne, c'est compliqué. Parce que dans le fond, les électeurs ont certes voté, mais citez-moi une force économique, sociale, associative, organisée en Grande-Bretagne qui soit pour le Brexit. Et qui ait beaucoup de membres. Non. En fait, non. C'est une élection, ce vote de 2016, il est suspendu en l'air, mais il n'a pas une base sociale forte. Mmh. Et ça, je pense que, même si vous comparez avec des autres indépendantismes en Europe, par exemple, la situation en Catalogne, alors là, oui, en Catalogne, vous avez à la fois des votes pour les indépendantistes catalans, ou les autonomistes, et une société civile catalane qui est prête à sacrifier beaucoup pour l'indépendance de la Catalogne. Mais en fait, en Grande-Bretagne, non. D'où toute l'ambiguïté de la situation. Et le grand cinéma que nous avons depuis 2016, qui revient à faire en fait un accord, même avec l'accord de Brexit de Johnson, qui va être « on ne change rien en fait ». On ne change rien. Si vous regardez l'accord en détail, on ne change rien. Sauf sur la libre circulation des personnes.
Yves Bertoncini, vous vouliez réagir. Oui. Si j'étais un peu provocateur, est-ce qu'on pourrait dire que finalement le Brexit nous a permis de gagner la bataille des eurosceptiques? Contre les eurosceptiques?
Contre les europhobes. Vous l'avez bien dit dans votre lancement, je crois qu'il faut bien distinguer l'europhobie, c'est-à-dire la détestation telle de l'Europe qu'on veut la quitter, de l'euroscepticisme et même des euroscepticismes. L'euroscepticisme, il existe encore partout, y compris en France. Et il y a même des euroscepticismes qui se répondent parce que certains peuples vont trouver l'Europe trop libérale et d'autres pas assez, ou trop sociale ou pas assez. Voilà. Donc il y a toujours beaucoup d'euroscepticisme.
On a gagné la bataille de l'europhobie.
Bien sûr. Et c'est pour ça que Marine Le Pen s'est cassé les dents au moment de la présidentielle, que Matteo Salvini vient d'abjurer son europhobie pour des raisons souvent d'ailleurs en partie tactiques. Mais pourquoi? Parce qu'il voit que l'appartenance à l'Union européenne est une base sociologique forte. Et j'ajoute, l'appartenance à la zone euro, alors ça c'est même encore plus ancré parce que les populations, c'est 19 pays certes, mais se disent mais comment on va faire, quel bazar ça va être de changer à nouveau, revenir à la monnaie d'avant, les guerres entre les monnaies. Et donc j'allais dire que ce que offre le spectacle qu'offrent les Britanniques, c'est que c'était déjà ceux qui étaient le plus près de la sortie. Parce qu'ils avaient un statut sur mesure, ils n'étaient ni dans l'euro, ni dans Schengen, ils avaient plein d'exemptions. Et même pour eux, c'est affreusement difficile de sortir, même si c'est possible. Et ça va être très coûteux. C'est déjà coûteux alors qu'ils sont même pas encore sortis. Donc effectivement, c'est une magnifique contre-publicité, je dirais, pour les europhobes qui finissent tous les uns après les autres par en prendre acte.
Yves Bertoncini d'abord, et puis ensuite on retournera à Lyon avec vous, Christophe Bouillot. Cette belle unité que l'on louait tout à l'heure, est-ce que les Européens vont pouvoir la conserver dans les futures discussions sur le futur précisément des relations entre l'Union Européenne et la Grande-Bretagne? Les choses vont rentrer véritablement dans le dur là. Il y a évidemment un certain nombre de divergences. Tout le monde en Europe n'a pas la même idée, n'a pas la même vision de ce que doivent être ces relations futures. Est-ce que c'est pas là que les vrais problèmes vont commencer?
Si. Absolument. C'était beaucoup plus facile pour nous, les Européens, de nous unir dans la phase de divorce. Ça va être beaucoup plus difficile dans la seconde phase. On divorce, mais ensuite, quel pacte, enfin, quel partenariat on va conclure avec nos amis britanniques, parce qu'ils vont quand même rester là géographiquement. Que faut-il faire avec eux? Vont apparaître là des divergences entre États membres, bien sûr. C'est parfois même sentimental, hein. Il y a un attachement aux Britanniques, au Danemark, aux Pays-Bas, en Allemagne, qui est beaucoup plus fort qu'en France, hein, il faut le dire. Et puis aussi des divergences entre secteurs à l'intérieur du même pays. Si vous prenez la France, le secteur agroalimentaire veut garder des relations aussi fluides que possible avec le Royaume-Uni parce que nous avons un excédent bilatéral fort, commercial. On vend beaucoup d'alcool, etc. Le secteur financier en France, je pense, voudrait couper les liens au maximum pour récupérer une partie de la City. C'est pas les seuls à vouloir faire ça. Donc il y aura des divergences sectorielles et nationales. Pour négocier un partenariat, donc un futur accord, il faudra toute la maestria de Michel Barnier qui est resté, hein, qui a été confirmé pour cette nouvelle phase, pour essayer de maintenir cette cohésion. Mais ça va être d'autant plus difficile que les Britanniques étant sortis, au moins virtuellement, parce que ça serait un Brexit institutionnel, ils vont essayer d'activer, effectivement, d'actionner les divergences entre tel ou tel État membre. Je crois que Donald Trump ne va pas rester non plus inerte. Il y a beaucoup de puissances étrangères qui nous regardent et qui peuvent avoir intérêt à nous diviser. Donc je dirais qu'effectivement, nous avons mangé, nous les Européens, notre pain blanc, et que si les Britanniques finissent par sortir de l'Union Européenne, nous, on n'est pas sortis de l'auberge dans les négociations avec eux.
Christophe Bouillot, comment vous voyez les choses? Effectivement, Yves Bertoncini a raison de souligner ces divergences à la fois dans les secteurs et entre les États membres. Est-ce que vous pensez qu'on est en capacité, effectivement, d'obtenir un accord sur le futur des relations, ou est-ce qu'en réalité, c'est peine perdue tant c'est difficile?
Comme on dit, parfois le provisoire est très durable, quoi. Il est possible que, après avoir obtenu cet accord soit renouvelé provisoirement au fil de l'eau. Et puis, à mon avis, va se poser rapidement pour l'Europe la question écossaise. C'est-à-dire que s'il y a Brexit, probablement il y aura un second référendum en Écosse et éventuellement une victoire du référendum d'indépendance en Écosse. Et là, l'Union européenne va être obligée de choisir. Est-ce qu'on fait une procédure spéciale accélérée pour absorber rapidement l'Écosse dans l'Union européenne, ou est-ce qu'on fait subir un chemin de croix à l'Écosse pour rentrer dans l'Union européenne? Ce qui évidemment change beaucoup les choses.
Alors ça change beaucoup les choses, d'autant que bien sûr qu'on pourrait considérer que c'est tout à fait naturel de récupérer l'Écosse puisqu'elle était de facto dans l'Union européenne. Mais qu'est-ce qu'on dit par exemple à l'Albanie? Qu'est-ce qu'on dit à la Macédoine du Nord, à qui on a dit que on arrêtait en tout cas pour le moment d'envisager leur intégration? Écoutez Emmanuel Macron, ce qu'il disait précisément, c'était en octobre dernier, il y a quelques jours, sur la possibilité d'un élargissement de l'Union européenne. Écoutez.
J'ai un désaccord de fond avec ceux qui pensent que
L'élargissement est en quelque sorte aujourd'hui la téléologie de l'Europe. Parce que pour plusieurs États membres, c'est ça la réalité. Je crois que c'est une erreur profonde de raisonnement. En tout cas, ça n'est pas l'Europe que je veux. D'abord, j'ai rappelé chacun à la cohérence. Ça ne marche pas bien à 27. Comment on explique que ça marche mieux à 28, 29, 30, 32 ? On est trop lent à nous réformer nous-mêmes avant d'élargir. Deuxième point, les mêmes qui nous disent « la main sur le cœur, il faut élargir », nous disent « je veux un budget à 1% ». Quand la tartine est plus grande et qu'on met moins de beurre, faut étaler le beurre, on finit par plus le voir. Et bizarrement, à la fin, ça a un goût de tartine.
Bon, alors, l'histoire de la tartine, Vuberton Signé, je ne vais pas vous faire expliquer cette métaphore, elle est assez claire. Mais là, il y a un vrai sujet, parce qu'effectivement, Emmanuel Macron, là, justifiait sa décision de ne pas ouvrir les négociations d'adhésion à l'Albanie et à la Macédoine du Nord, expliquant d'ailleurs... avec des arguments qui s'entendent, hein. Effectivement, on a déjà du mal à 27, pourquoi est-ce qu'on va élargir ? On va élargir, mais alors, compte tenu de ce que vient de dire Christophe Bouillot, est-ce qu'on va comme ça accueillir tranquillement l'Écosse, sans rien dire aux autres ? Enfin, est-ce qu'on peut comme ça avoir deux régimes ? Et puis, au-delà de cette question-là, est-ce que finalement ce Brexit, il marque pas une forme de rupture dans le processus précisément d'élargissement qui est critiqué depuis bien longtemps en réalité, depuis bien avant le référendum de juin 2016. Est-ce que d'une certaine manière, là, l'Europe n'a pas arrêté de bouger et trouvé finalement ses frontières définitives, en tout cas pour longtemps, Yves Bertoncini?
D'abord, le Brexit, c'est un rétrécissement, donc effectivement, c'est inédit. Alors oui, il y avait le Groenland qui était sorti de la communauté économique européenne en 85. Enfin bon, là, le Brexit, c'est quand même un rétrécissement, c'est une amputation, hein. C'est quand même 65 millions, c'est 12% de la population, 14% de notre PIB, les dépenses militaires, plus d'un quart. Bon, c'est quand même une perte, hein. Bon, mais c'est un choix démocratique, donc ils s'en vont. Si on prend les choses du point de vue géopolitique, il faut, enfin, l'union fait la force, hein. C'était le slogan de David Cameron, on est plus forts ensemble. Bon. Quand on parle des pays des Balkans...
qui avaient décidé du référendum, rappelons,
voilà,
pour les...
Ils sont 18 Brexit, millions, c'est la population des Pays-Bas. Bon. C'est pas un élargissement d'ailleurs, les pays des Balkans, c'est une consolidation. Ils sont au milieu de nous, hein. Ils sont entourés de pays de l'Union européenne. Il y a quand même Sarajevo là-bas, c'est européen. Donc ils ont une perspective européenne, il faut qu'ils fassent plein de réformes pour y arriver, bien sûr. Là, il s'agissait simplement d'ouvrir des négociations. Ça ne voulait pas dire qu'ils allaient rentrer. Regardez, avec la Turquie, on a ouvert des négociations. Elle ne rentrera pas dans l'Union européenne. Je pense que sur le propos d'Emmanuel Macron, il y a des choses intéressantes. Mais quand il dit que ce n'est pas la théologie de l'Europe, il est isolé. Parce que si la construction européenne, à l'origine, c'est pour étendre un espace de réconciliation et d'échange économique et humain. Et c'est ça son premier but. Et c'est pour ça que d'ailleurs on a réunifié d'une certaine manière l'Europe après la chute du mur en direction de l'Europe centrale et que c'est pas terminé en direction des Balkans. Il y aurait plus à dire au niveau de l'Ukraine, la Biélorussie, ces pays-là, parce que ils sont dans la zone d'influence entre la Russie et l'Union européenne. Et donc Emmanuel Macron, en refusant d'envisager l'ouverture des négociations avec l'Albanie et la Macédoine du Nord, après une décision qui aura des coûts, hein, pas seulement dans la région, auprès de ses homologues, d'autant plus qu'il est porteur d'une Europe plus politique, hein, il faut s'affirmer avec plus de politique étrangère, plus de sécurité collective, pourquoi ? Parce qu'il y a Poutine, Trump, Erdogan, etc., et que en faisant ça, d'une certaine manière, il laisse les pays des Balkans dans les mains de ces puissances étrangères qui ne nous veulent pas du bien, j'ajoute la Chine. Et donc, c'est vrai que ce qu'il y a derrière ça, peut-être, pour l'expliquer, cette décision, même si elle est peut-être que temporaire, que tactique, c'est le vieux débat français, avant d'approfondir, avant d'élargir, il faut approfondir, il faut réformer, par exemple, les institutions ou le budget. Je pense qu'on peut très bien faire ça sans fermer la porte, au moins pour en discuter, avec l'Albanie et la Macédoine du Nord, et que c'est ce qui finira par arriver dans quelques temps.
Alors, on va voir comment est-ce qu'on peut réformer et envisager davantage d'intégration, peut-être pas justement à 27, mais envisager une solution avec une Europe à géométrie variable. Mais avant, je vais vous faire réagir, Christophe Bouillot, sur ce point-là. Est-ce que vous pensez que le Brexit a fini, au fond, de convaincre les États membres qu'il était assez déraisonnable d'intégrer de nouveaux membres? Et puis, au-delà de cette question-là, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est vraiment problématique? Parce que effectivement, ça touche quand même à l'universalisme qui est au cœur du projet européen. Au fond, l'Europe avait vocation, dans la nature même de son projet, à s'étendre, Christophe Bouillot.
Alors j'aurais deux réponses. Alors, première réponse, c'est vrai que le Brexit a montré qu'un afflux d'Européens qui viennent travailler dans un pays d'Europe, la Grande-Bretagne, est une des causes fondamentales en fait du vote du Brexit. C'est-à-dire qu'une des raisons pour lesquelles les Britanniques ont voté non à l'Europe, c'est à cause des immigrants français, roumains, polonais, lettons qui sont arrivés sur leur sol après 2007. Donc il est assez logique que Emmanuel Macron dise « nous ne voulons pas effectivement des pays des Balkans, les plus pauvres, parce que nous savons que leur population va se déplacer, si elle en a la possibilité, vers les zones les plus riches où elle trouvera du travail. » Et c'est vrai que c'est une rupture avec le compromis européen des années 50, qui est, il y a des pays plus riches et des pays plus pauvres, et les pays plus pauvres donnent leur main d'œuvre aux pays plus riches. C'est par exemple le compromis qui a été fait avec l'Italie, qui longtemps a déversé sa main d'œuvre excédentaire sur, effectivement, les pays comme la Belgique, la France, et l'Allemagne. Donc là, il y a vraiment une rupture, mais qui correspond au fait que, fondamentalement, les situations des marchés du travail dans la plupart des pays européens n'est pas très bonne, et la perception d'arrivée de nouveaux concurrents sur le marché du travail provoque des problèmes aux gouvernants de l'heure. Donc ça, c'est une première chose, et c'est vrai que le Brexit, ça a été un choc de s'apercevoir que la xénophobie en Europe, elle pouvait viser d'autres Européens. Parce qu'en gros, on a tendance à penser que c'est des extra-européens, mais là, c'était vraiment les Roumains, les Lettons, les Polonais qui étaient vraiment l'objet d'hostilité de la part des Britanniques. Bon, ça, c'est une première chose. Ensuite, deuxième chose, je pense qu'une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron bloque, c'est qu'en fait, l'évolution de l'Union européenne depuis 2004, depuis le grand élargissement, on a vraiment beaucoup d'États, beaucoup de petits États. Et le fonctionnement d'un système où on suppose qu'il y a réellement une égalité entre États, entre Malte, le Luxembourg, la France et l'Allemagne, est un système qui est quand même mal construit et qui ne correspond pas à la réalité du fonctionnement. La réalité du fonctionnement, c'est que lorsqu'il y a des vrais problèmes, on est en train de faire un directoire à 4-5 grands États. Et de fait, avec le départ de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, on se retrouve avec moins de grands États. Donc si on rajoute des petits États, la situation deviendra encore plus compliquée. Donc probablement, la vraie réforme à faire, ça serait d'officialiser. Et ça, c'est très difficile. Il y a des États qui sont plus égaux que d'autres. Je sais bien que c'est très difficile à faire parce que tout le système européen a été fondé sur l'égalité formelle des États. Or, en pratique, Malte n'est pas l'égal de la France.
Yves Bertoncini, Malte n'est pas l'égal de la France et il faut que ça ait une traduction politique, nous dit Christophe Bouillot.
Bien sûr, mais c'est le cas. Est-ce que Malte a autant de parlementaires européens que la France ? Bien sûr que non. Ils en ont 6 et la France en a 73, bientôt 78, 74, bientôt 79, pardon. Est-ce que Malte a autant de poids quand on vote au Conseil des ministres ? Alors oui, à l'unanimité, chacun a une voix. Mais il y a de plus en plus de votes à la majorité qualifiée, comme on dit. Et ça, c'est pondéré par la population. Donc la France pèse 40, 50, 60 fois plus que Malte. Alors il y a un sujet, c'est la Commission européenne. Dans la Commission européenne, il y a un commissaire.
Un représentant
qui vient
par pays.
De chaque... Alors ce n'est pas des représentants stricto sensu,
oui,
mais
bien sûr.
Voilà, un national. Et là, il y a effectivement un arbitrage à faire. Moi, je considère que c'est très bon qu'il y ait un national par État membre parce que ça permet à la Commission de relayer sa politique dans la langue du pays avec un porte-parole qui peut parler en slovène au slovène et en maltais au maltais. Voilà. Et que la tentative de réduire, bah, les traités précédents ont prévu une réduction. Et ça a buté sur le nom irlandais au référendum. Parce que les Irlandais disaient, mais nous, on veut avoir quelqu'un autour de la table quand les initiatives sont lancées, même si la Commission ne décide pas. Donc si Emmanuel Macron veut remonter au front sur ce sujet-là, qu'il le fasse. D'ailleurs, il veut le faire. Je suis pas sûr qu'il y arrivera. Mais je crois pas que ça soit le problème absolument fondamental. Je crois qu'au fond, la France préfère une Europe en plus petit, qui ressemble à une France en plus grand.
Mais parce qu'elle veut une Europe qui avance. Elle veut une Europe qui avance, Yves Bertoncini.
Bien sûr. Mais on pourra le faire, et d'ailleurs c'est déjà le cas, notamment en matière de sécurité collective, la défense, l'échange de renseignements, tout ça, ça ne se fait pas à 28 ni même à 27. Il faut le faire à géométrie variable. Et d'ailleurs, il faut inclure les Britanniques même quand ils seront sortis, parce que sur ces sujets-là,
ce sont des acteurs... Attendez, si vous incluez des acteurs qui ne sont pas européens, que
oui,
vous
mais
le
là,
faites
on est dans la coopération...
en petits groupes, en laissant de côté un certain nombre d'acteurs... Enfin,
oui,
c'est
mais
plus
on est dans
là.
La coopération intergouvernementale pragmatique, quand vous allez à l'échange de renseignements, ça peut même inclure les États-Unis, enfin, on est vraiment dans l'efficacité. Il y a déjà, la zone euro est à 19, donc c'est déjà une forme d'Europe à géométrie variable. Schengen, il y a 22 États membres et 4 États membres... Enfin, 4 pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Bien sûr qu'on va aller, dans cette direction plus encore. Mais deux choses face aux grands défis globaux, c'est-à-dire les défis climatiques, le défi de sécurité, les défis migratoires, le défi de la mondialisation économique, la concurrence chinoise. l'union fait la force. Et puis plus prosaïquement, il y a beaucoup de réalités qui sont à 27, 28, c'est-à-dire le marché intérieur, c'est à 28, puis bientôt 27. La politique commerciale, c'est à 28 que ça se tient. Et donc c'est là-dessus que les Français butent, c'est-à-dire qu'au fond, je crois qu'ils n'ont jamais tout à fait accepté l'élargissement de 2004, et en partie, le référendum de 2005 sur la Constitution en France était aussi un référendum sur l'élargissement de 2004 et sur la Turquie. Et puis, globalement, la dimension économique, le marché intérieur, la politique commerciale, les thèses françaises, et y compris celles que porte Emmanuel Macron, ne sont pas majoritaires, ouais. Hein, l'Europe sociale, l'Europe fiscale, ouais. Et la réforme de la politique de concurrence. Et donc, parfois, on a une tentation de plus en plus grande d'essayer de refaire l'Europe en plus petit. Encore une fois, c'est possible et souhaitable sur certains segments comme la coopération policière, la défense, mais ça ne l'est pas dans le reste. Et donc, il faut que la France continue à essayer d'être entraînante sur tous ces sujets-là. Le budget européen aussi, c'est pas un budget à 3, hein, c'est un budget à 28.
Sachant que Emmanuel, on en a parlé beaucoup hier, le budget européen, Emmanuel Macron était très ambitieux, il voulait plusieurs points de PIB, on est très loin du compte, à tel point d'ailleurs qu'on ne parle pas de budget européen, mais d'outils budgétaires européens, parce qu'on ne veut pas entendre parler de
pour
budget européen.
Pour la zone euro, oui, c'est vrai. Voilà. Ça n'a rien à voir avec l'élargissement. Voilà, je voulais dire ça en dernier. Ça a à voir avec les divergences, notamment franco-allemandes. Essayons d'imaginer une Europe à 6, et vous verrez que déjà avec les 6 premiers, par exemple l'Italie sur les questions migratoires, le budget avec les Allemands, ça serait déjà très difficile. Donc il ne faut pas non plus que l'élargissement soit le bouc émissaire de nos difficultés à nous Français à convaincre sur nos thèses.
D'ailleurs on le voit par exemple sur la question de la politique migratoire ou même à peu de pays, c'est déjà très difficile. Christophe Bouillot, sur cette idée d'avancer avec par petits groupes, par secteur, hein, voilà ce qu'on appelle parfois cette Europe à géométrie variable. Et puis aussi, peut-être sur l'importance, parce que vous l'avez un peu évoqué, de remettre les peuples, les citoyens au cœur de ce projet européen, parce que effectivement, c'est quelque chose qu'on entend, une critique qu'on entend très souvent. Yves Bertoncini a évoqué tout à l'heure le référendum de 2005, c'est évidemment ce qui a été au cœur des critiques. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont été réalisées depuis. On a essayé de donner un peu plus de pouvoir au Parlement de Strasbourg. Est-ce que vous pensez qu'on va dans le bon sens? Et pour revenir à notre sujet qui est celui du Brexit et de ses conséquences, est-ce qu'il vous semble que le départ de la Grande-Bretagne constitue une opportunité pour améliorer précisément le caractère démocratique de l'Union? Christophe Bouillot.
Je ne vois pas en quoi le départ de la Grande-Bretagne améliorerait le caractère démocratique. S'il y a amélioration, elle est de manière assez claire à travers, par exemple, le fait que quand même l'élection européenne de cette année, en 2019, a été un peu plus européanisée qu'avant. Et surtout qu'on a la grande chance, je trouve, d'avoir une commission qui a beaucoup de difficultés à se mettre en place, avec une certaine écho dans les médias donné au fait que des commissaires n'ont pas été acceptés par le Parlement. Et on a quand même l'embryon d'une vie politique européenne qui commence à être conflictuelle.
Alors je vais être beaucoup plus clair, Olivier de France. Par exemple, la question de l'Europe sociale, Yves Bertoncini l'a évoqué. On sait bien que les Britanniques ont toujours été extrêmement opposés à l'idée d'avoir une Europe sociale, que c'est l'un des principaux freins qui a empêché un certain nombre d'avancer sur ce point-là. Ils ne sont plus là. On va pouvoir aller vers plus d'Europe sociale. Ça change pour les citoyens. Olivier Devron, Christophe Bouillot, non.
Oui, alors, oui, je pense, d'une certaine façon, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas d'autres pays européens qui sont actuellement dans l'Union, qui soient tout à fait réticents à une Europe sociale supplémentaire. Dans la mesure où, effectivement, les pays de l'Est qui ont été absorbés dans l'Union en 2004-2007 ont quand même choisi un modèle de fait où, avec un modèle d'État social très réduit, une compétition par les prix par rapport à l'Europe de l'Ouest. Donc, même si il y a une volonté, par exemple, affirmée par le récent gouvernement polonais d'une montée en gamme et d'une augmentation des salaires et probablement d'augmentation de la protection sociale. Je pense qu'on est très loin, par exemple, des idées comme l'établissement d'un SMIC européen. On reste dans cette concurrence où, quand même, vous avez les pays de l'Est de l'Europe. Leur seul avenir économique, c'est quand même le fait qu'ils sont moins chers.
Yves Bertoncini, vous vouliez réagir sur ce point?
Mais j'ajouterais, je suis d'accord, mais j'ajoute que n'oublions pas, de l'autre côté du spectre, parce que les Britanniques, au fond, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il y a des États qui sont au contraire très vertueux en matière sociale et qui, pour cette raison-là, n'ont pas envie que l'Europe interfère. Et surtout pas quand c'est la France, qui est dans une situation sociale pas exemplaire, qui veut donner des leçons sur ce registre. Alors je le regrette, mais je le constate. Si vous allez en Suède, en Finlande, Les gens vous diront, non mais tout va très bien chez nous en matière sociale, tout va très bien. D'ailleurs, nos syndicats sont très puissants, on négocie, etc., pour le coup. Et donc, l'Europe sociale, on n'en veut pas. Prenez l'Allemagne. L'Europe avait fait, à l'initiative de Jacques Delors, un programme d'aide aux plus démunis. Un programme d'aide alimentaire. L'Allemagne est allée devant la Cour de justice pour dire que l'Europe n'a pas à faire du social comme ça. Chez nous, en Allemagne, ça ne se fait pas comme ça. C'est les églises qui ont un rôle, etc. Et donc, bien sûr que le fait qu'un État aussi puissant que le Royaume-Uni se retire, ça va créer un petit appel d'air dans certaines directions. J'ai mentionné la défense, parce que c'est vrai que les Britanniques avaient à la fois un rôle important, mais ils bloquaient un peu. Donc, c'est vrai que ça a permis quelques avancées. Mais par exemple, en matière sociale, en matière fiscale, si on croit vraiment, nous, Français, que le grand soir est arrivé, on va au-delà de difficultés. Hein. Le budget de la zone euro, vous l'avez mentionné. Alors là, ce n'était pas les Britanniques qui bloquaient, puisqu'ils n'étaient pas dans la zone euro. Bien sûr que les Français peuvent davantage, peut-être, puisque les Britanniques sont partis, même si c'est une perte, enfin, vont partir, pardon, même si c'est une perte en matière de défense, pousser leur pion. Mais s'ils croient qu'il n'y a pas d'autres obstacles, y compris en matière sociale ou fiscale, ils se trompent.
Alors, dans quelques instants, on va retrouver Olivier de France avec qui on va évoquer la question de la défense. Mais avant, je voudrais vous entendre l'un et l'autre sur un point que je vous propose. Vous avez dit, Yves Bertoncini, on a rappelé tout à l'heure qu'évidemment, celui qui, au fond, est à l'origine de tout cela, de ce Brexit, c'est David Cameron. C'est lui qui a décidé d'organiser ce référendum et donc lui, d'une certaine manière, qui a précipité la sortie de la Grande-Bretagne, de l'Union. Mais peut-être que si on remonte encore avant, il y a un autre personnage qu'on pourrait considérer comme étant peut-être le père du Brexit. C'est lui.
We must build a kind of United States of Europe. But I must give you a warning. Time may be short. If we are to form the United States of Europe, or whatever name it may take, we must begin now. I'm now going to say something that will astonish you. The first step in the recreation of the European family must be a partnership between France and Germany.
Voilà, alors vous l'aurez peut-être reconnu, on doit construire une forme d'États-Unis d'Europe, mais je préviens tout de suite, hein, nous n'y participerons pas, et puis surtout, évidemment, cette construction, elle doit se faire autour de ce partenariat entre la France et l'Allemagne, vous l'avez reconnu, Yves Bertoncini, évidemment.
Churchill,
à Churchill, 1946, à Zurich. Ah. À l'époque, il jouit d'une aura absolument incroyable dans toute l'Europe, alors qu'il a perdu les élections chez lui, mais il est accueilli en véritable sauveur, en héros, on jette des fleurs sur sa voiture, enfin c'est véritablement quelqu'un, peut-être le personnage le plus important en Europe. Est-ce que finalement, ce qui arrive aujourd'hui, ça découle pas de la vision qu'il avait de l'Europe, de la construction européenne et de la place, du rôle que devait avoir ou pas la Grande-Bretagne là-dedans? Est-ce que son rejet au fond de l'Europe n'a pas joué comme une forme de prophétie autoréalisatrice qui s'est progressivement imposée par le truchement de cette empreinte absolument colossale, indélébile qu'il a laissée dans la politique britannique?
Mais bien sûr que les Britanniques ont toujours eu cette position ambivalente, ambiguë, qui d'ailleurs tient à la fois à leur géographie, hein, c'est une île, et puis à leur histoire, le centre d'un grand empire. Et donc Churchill disait, il faut stabiliser le continent européen, mais nous n'en faisons pas partie, en tout cas au sens géographique, donc ça sera sans nous. Ensuite, les Britanniques, quand
pourquoi
ils ont vu... Ben parce que c'est vrai que la Grande-Bretagne a une vocation mondiale, que c'est quand même une grande puissance qui peut jouer sa carte, au même titre que la Russie dans un autre, même si la Russie est une puissance moindre. Voilà, ces grands pays-là. Puis il y a une relation spéciale avec les États-Unis. On voit bien que Boris Johnson essaye de raviver cette mythologie-là. Il y avait un autre aspect, hein, puisque c'est Churchill après-guerre, c'est que les Britanniques se sont défendus seuls contre les nazis, alors que les Français se sont couchés. Enfin, c'est la vision de Churchill. Et que donc, ils ont bien montré qu'avec la sueur à des larmes, ils étaient capable d'assumer seul leur destin. Et donc, bien sûr que depuis le début, il y avait cette spécificité-là. Et c'est pour ça que je dis que dans le Brexit, en tout cas le référendum victorieux, il y a plein d'éléments tout à fait, d'ailleurs, circonstanciels, mais il y a des éléments structurels, mais qui étaient exceptionnels et qui ne se retrouvent pas dans les autres pays d'Europe qui, pour cette raison-là, eux, resteront dans l'Union européenne, même s'ils se querellent tout en y restant.
Christophe Bouillot, je vous demande une réponse courte. On va accueillir Olivier de France. Winston Churchill, le vrai père du Brexit?
Je n'irai pas jusque-là. Mais par contre, le vrai père, c'est le Parti conservateur, qui effectivement, à cause de cette image ancienne de Churchill, n'a jamais su choisir entre un euroscepticisme affirmé et l'européisme. En fait, c'est le Brexit n'aurait pas eu lieu si le Parti conservateur n'avait pas préféré régler ses divisions internes par un référendum plutôt que, comme des autres partis de gouvernement en Europe, choisir en fait l'européisme. C'est ça le problème.
Allez, on accueille tout de suite par téléphone Olivier de France. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, responsable du programme Europe et chercheur à Oxford. Et vous aviez d'ailleurs écrit une note après Brexit, quelle stratégie de défense européenne? Et justement, on va en parler de défense. Alors, on parlait d'histoire à l'instant, Olivier de France. Faut rappeler que historiquement, évidemment, la construction européenne, elle avait pour vocation d'évacuer la guerre des relations entre les États. C'est le fameux plus jamais ça. Et pour ce faire, évidemment, les Européens confiaient d'une certaine manière aux États-Unis la gestion des grandes crises du monde et échappaient d'une certaine manière à leurs responsabilités propres. Aujourd'hui, on est dans un contexte qui a totalement changé. On a évidemment un désengagement progressif des États-Unis qui a commencé avant Donald Trump en réalité et qui va se prolonger probablement après lui. On a une nouvelle Russie évidemment avec des velléités expansionnistes et une manière de faire, disons, un peu brutale, et c'est un euphémisme, on l'a vu en Ukraine, on l'a vu en Syrie. Compte tenu de cet environnement, l'Europe doit évidemment repenser sa politique de défense. Est-ce que le Brexit, c'est une bonne opportunité pour donner une nouvelle impulsion à cette Europe de la défense, Olivier de France?
D'une certaine manière, ça peut permettre effectivement de remettre les choses à plat. Depuis, en fait, 2016, on a un certain nombre d'outils, d'instruments qui ont été mis sur la table par la mandature précédente à Bruxelles. Vous avez toute une série d'instruments du Fonds européen de défense, à la coopération structurée permanente, toute une série d'acronymes qui masquent en fait une vraie volonté de remettre sur la table les questions de défense, de se les réapproprier dans un contexte européen et pas forcément uniquement un contexte OTAN. Et de ce point de vue-là, effectivement, le Brexit peut représenter une opportunité. Je parlais du Fonds européen de défense, c'est quelque chose de révolutionnaire en fait. C'est pour la première fois, on va avoir une ligne budgétaire dans le budget européen, a priori, qui sera relativement importante et qui sera allouée aux questions de défense.
13 milliards sur quelques années. Au regard
des... Faut être un peu prudent.
C'est pas beaucoup, Olivier de France. C'est pas beaucoup, 13 milliards.
Si, c'est énorme. C'est un poids, en fait, si vous voulez, presque théologique, énorme. Parce que les questions militaires ne sont pas du tout dans l'ADN de l'Union européenne. Et d'avoir ça dans le budget européen pour la première fois, c'est quelque chose d'extrêmement symbolique. Faut faire un tout petit peu attention parce que, en fait, ce sera a priori dans le budget à partir de 2021, mais il faut encore que ce soit voté au Parlement européen. Or, on sait que au Parlement européen existe aujourd'hui des forces populistes qui peuvent mettre à mal ce vote. Paradoxalement, il faut pas non plus oublier que c'est quand même l'accord entre la France et le Royaume-Uni qui avait lancé ce qu'on appelle la PSDC, c'est-à-dire la politique de sécurité et de défense commune, c'est-à-dire en gros ce qu'on appelle en France l'Europe de la défense. C'est un accord entre Jacques Chirac et Tony Blair en 98, le 3 et le 4 décembre, au sommet de Saint-Malo. Et c'est parce que, en fait, ce sont deux pays qui ont des cultures stratégiques relativement similaires, et quand ils sont sur la même longueur d'onde, ça peut permettre de faire avancer l'Europe de la défense.
Alors justement, est-ce qu'on peut co-construire une culture de la défense commune en Europe? Et le point évidemment essentiel, c'est celui de savoir si on peut envisager demain une armée européenne. Je propose d'écouter avant de répondre Angela Merkel sur ce point-là, parce que évidemment la position allemande a beaucoup changé sur cette perspective-là, et peut-être que ça pourrait changer la donne. Écoutez.
J'ai proposé la constitution d'un Conseil de sécurité européen avec une présidence tournante au sein de laquelle des décisions importantes pourront être plus rapidement prises. Je suis absolument convaincu, surtout si l'on considère les développements de l'année écoulée, que nous devons élaborer une vision nous permettant d'arriver un jour à une véritable armée européenne.
Arriver un jour à une véritable armée européenne. Voilà ce qu'elle disait devant le Parlement de Strasbourg. Olivier de France, est-ce que ça y est, le principal obstacle qui était l'obstacle allemand est levé et on peut penser qu'à terme, alors reste à voir quel terme, mais on aura une armée européenne? Et puis je ferai réagir nos deux invités sur ce point également. Olivier de France.
Il y a deux choses. D'une certaine manière, quand on travaille sur les questions militaires européennes, on voit ça d'un œil un peu amusé, parce que c'est effectivement le thème qui fait surface, qui suscite beaucoup d'intérêt en Europe. À la limite, pourquoi pas ? Ça fait parler des questions de défense en contexte européen, très bien. Mais c'est un peu trompeur. C'est-à-dire que, pour l'instant, ça ne recouvre aucune réalité, puisqu'en fait, une armée est commandée par un chef d'état-major, à qui un chef des armées, donc un président de la République, donne ses objectifs politiques. Et l'Union européenne n'est pas, comme vous le savez, un État-nation. Et par conséquent, on a du mal à imaginer comment ça peut fonctionner aujourd'hui à l'échelle européenne. Donc pour moi, la priorité, c'est pas tellement la question de l'armée européenne. Au contraire, on l'a vu dans le débat britannique autour du Brexit, ça peut constituer un chiffon rouge. Ça peut cliver. L'essentiel pour moi aujourd'hui, c'est d'essayer d'avancer de manière pragmatique sur des coopérations limitées mais structurantes qui peuvent permettre d'amorcer la pompe et d'enclencher ça avec, si possible, du coup, un budget dont on parlait, un budget communautaire qui puisse abonder ces coopérations militaires-là.
Oui, sauf que pour le moment, on est quand même loin du compte. Le fonds de défense, je disais, c'est 13 milliards, c'est quand même pas énorme au regard des budgets de défense nationaux. Yves Bertoncini, l'armée européenne, c'est pas essentiel ?
Je crois que le contexte géopolitique a beaucoup changé. La politique européenne de défense, ça remonte même au traité de Maastricht, on avait dit, voilà, européenne de sécurité commune et de défense un jour. Bon.
Il y avait même eu un projet en 52 de communauté européenne de défense.
Mais pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le contexte géopolitique était porteur. C'est ça le sujet. L'époque, c'était les Soviétiques nous menacent, nous avons peur, il faut donc organiser le réarmement allemand, mais dans un cadre européen. Mais comme nous, Français, on a proposé la communauté européenne de défense, et puis comme nous, Français,
on l'a refusé,
on l'a foutu en l'air, eh bien, le réarmement allemand a été sous pavillon OTAN. Voilà. Et donc, on a perdu une occasion. Maintenant, quand on a remis ça sur le métier en 92, c'était, j'allais dire, au mauvais moment, à contre-temps. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait toujours pas d'Europe, c'était l'OTAN, et surtout, il n'y avait nul besoin de se défendre à l'époque. En gros, on avait gagné la guerre froide. Mais 98 arrive, parce qu'on voit bien qu'en ex-Yougoslavie, sous nos fenêtres, on n'est pas capable d'intervenir, il faut les Américains. Et puis aujourd'hui, à nouveau, et Angela Merkel, avant de parler d'armée européenne, elle est sortie un jour d'un entretien avec Donald Trump, et elle a dit, ils nous défendront plus. Et donc, il est temps de prendre notre destin en main. Et donc, ça, c'est quelque chose qui bouge. Les Européens savent qu'ils doivent faire davantage. Je suis d'accord avec l'idée de France. Il faut faire ça de manière pragmatique, etc. Mais il faut bien comprendre que pour elle, pour les Allemands, ce n'est toujours pas évident d'avoir une armée qui, notamment, va faire des interventions à l'extérieur, pour des raisons historiques.
Vous l'avez dit, Bertoncini, en 52, quand on lance le projet de communauté européenne de défense, c'est pas les Allemands qui bloquent, ce sont les Français.
Absolument. Et donc, c'est pour ça que, au-delà de la réalité opérationnelle, elle a besoin de dire que cet effort allemand sera européanisé. Parce qu'il y a toujours de grandes réticences en Allemagne et ailleurs.
Dans l'opinion allemande.
Sur l'idée que si l'Allemagne, par exemple, avait 2% de son PIB consacré à la défense, comme le souhaite Donald Trump, et si c'était germano-allemand, ça lui donnerait une puissance un tout petit peu inquiétante pour son peuple et pour ses partenaires.
Christophe Bouillot, vous n'avez pas encore réagi sur ce point-là, sur cette Europe de la défense. On voit que les choses bougent, mais qu'il y a encore évidemment des obstacles, notamment au niveau des opinions. Tout ça est très compliqué. Comment vous voyez les choses ?
Alors, je suis tout à fait d'accord sur l'aspect spécifiquement allemand. Je pense qu'il y a un lien avec le Brexit. Avec le Brexit, par définition, le pays qui va devoir payer beaucoup plus le beurre sur la tartine, c'est, comme pour parler comme Emmanuel Macron, c'est l'Allemagne. Donc, elle va participer beaucoup plus au budget européen, de fait, parce que il faudra bien que quelqu'un participe. Et c'est vrai que ça peut être très intéressant d'avoir un budget européanisé de la défense qui permet effectivement d'avoir un phénomène, disons, de juste retour en direction des industries allemandes qui sont assez fortes dans ce domaine-là. Donc, en fait, il y aurait effectivement un équilibre à trouver. On européanise l'argent allemand, mais l'argent allemand revient massivement financer effectivement l'industrie de défense allemande. Après, sur l'aspect des opinions publiques, je pense qu'il y a une sorte de hiatus. Dans les sondages d'opinion, vous avez plutôt les Européens qui disent qu'ils sont plutôt favorables à toutes ces avancées. Après, en pratique, je ne suis pas sûr que dans les cas concrets, l'engagement des forces d'un pays ou de l'autre dans un conflit majeur sous une bannière européenne, j'en suis pas complètement convaincu. C'est-à-dire que c'est une sorte de promesse qu'on se fait, mais face à des vraies difficultés,
Bon, tout le monde d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y avait eu récemment une enquête d'Odoxa, en l'occurrence, qui montrait que les Français étaient plutôt favorables à la création d'une armée européenne, mais qu'en même temps, ils pensaient que ça n'arriverait pas. Donc on voit bien évidemment que ce paradoxe-là. Tout dernier point, Olivier France, je vous rends la parole. Je vous demanderai une réponse courte parce qu'on arrive presque au terme de l'émission. Mais en quelques mots, Olivier de France, une fois que le Brexit sera acté, comment les Européens envisagent leur collaboration avec la Grande-Bretagne dans le domaine militaire ?
Alors, il faut être un peu prudent, parce qu'il est très possible que Boris Johnson n'ait pas de majorité claire. Donc,
soit, mais faisons l'hypothèse. Allez, soit.
Dans ces cas-là, de toute manière, la coopération en matière de défense, aujourd'hui, ça reste quand même, pour l'essentiel, du bilatéral. En particulier avec la France, dans le cadre des traités de Lancaster House sur les questions nucléaires, sur les questions opérationnelles, on a une force expéditionnaire commune. Donc, pour l'instant, ça va rester dans le domaine bilatéral. Mmh. C'est très important, notamment du point de vue du renseignement et du contre-terrorisme, parce qu'on a besoin du renseignement britannique et du renseignement américain, malgré tout, dans le domaine du terrorisme.
Ouais, Yves Bertoncini, on va rester dans la modalité du bilatéralisme en matière de défense.
Emmanuel Macron a fait quelque chose d'astucieux. Il a lancé l'initiative européenne d'intervention. Bon, c'est un jargon, mais pour qu'il y ait une culture stratégique commune entre pays européens. D'abord une dizaine de pays, dont le Royaume-Uni. Parce que c'était une façon de poser l'idée que même si ils ont décidé de partir, il faut que sur ces sujets, et Olivier de France le souligne, pas que défense, il y a aussi renseignement, etc., eh bien, on puisse avoir des liens opérationnels maintenus et même approfondis parce que le monde devient dangereux, instable, et que notre protecteur traditionnel, l'oncle Donald, ne nous protège plus.
Sur mon île malade, lumière pâle au bout du tunnel, on fera une longue promenade entre les averses cruelles. Faire semblant que rien ne va changer, une bière chaude, un match nul.
Merci beaucoup à tous nos invités. Olivier de France qui était à l'instant avec nous par téléphone, qui est directeur de recherche à l'IRIS. Un grand merci à vous, Yves Bertoncini, de nous avoir accompagnés, ainsi que Christophe Bouillot qui était en duplex de Lyon. C'est avec ce titre Brexit. Yves Bertoncini, vous connaissiez ce titre Brexit de Rémi Parson et Requin Chagrin ?
Pas du tout, mais je trouve que c'est très mélancolique.
Voilà, déniché par Benjamin Hue. On mettra ça évidemment sur le site de France Culture. Et même, on va créer des playlists avec les morceaux qui ont été diffusés dans Culture Monde, des playlists qu'on diffusera sur Spotify. Enfin, on va tout vous mettre ça sur le site de Culture Monde. Ça sera pour dans quelques instants. Tout de suite, c'est Brice Couturier, le Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors là, ce qu'on écoute, c'est un morceau de l'album de XTC, Drums and Wires, qui était sorti en 1979, il y a 40 ans. Un des 100 albums choisis par Sylvain Fanet dans sa sélection, la New Wave en 100 disques essentiels.
Oui, la New Wave avait commencé, je le disais hier, sur le mode mineur, avec Joy Division et le courant dépressif qu'on a vite baptisé Cold Wave. Et c'était la bande-son du fameux Winter of Discontent, l'hiver du mécontentement de 1978-79 en Grande-Bretagne. Mais rien ne se perd pour toujours dans le rock et les modes d'un moment perdurent longtemps après que d'autres aient semblé les remplacer. La preuve, dans la sélection de Sylvain Fanet, on trouve aussi Turn on the Bright Lights du quatuor new-yorkais Interpol, dont Fanet compare le chanteur Paul Banks à Ian Curtis de Joy Division. Or, ce disque, le dernier que je viens de citer, date de 2002. Voyez que la vague froide n'en finit pas de mourir. Cure, d'ailleurs, a fait toute sa carrière en poursuivant dans cette même ligne. Reste qu'en mai de cette même année 1979, Margaret Thatcher est élue première ministre pour la première fois, et le courant introspectif et dépressif de la Cold Wave laisse la place progressivement à l'ironie, à la dérision, à un cynisme désabusé. Les années du second degré, les années 80, commencent, on fait comme si. Dans les concerts de rock de l'époque, la division des impairs gris, l'uniforme de la Cold Wave, qui affectionnait les capotes d'uniforme militaire, disparaît progressivement. À l'austérité du post-punk, à son minimalisme, on pense au groupe Wire dans ce domaine, succèdent des tenues d'apparat pour nightclub, aussi délirantes qu'à l'époque du glam rock. C'est que le tournant des années 70 et 80 est marqué par la culture club. On va en boîte pour se montrer. C'est dans ces clubs, plus ou moins underground, que les créateurs de mode branchés viennent repérer les idées nouvelles, les nouvelles tendances, et que s'inventent aussi les nouveaux courants musicaux. Et ça culmine en Angleterre avec le mouvement, un petit peu ridicule, il faut bien le dire, des nouveaux romantiques. Une idée de Malcolm McLaren, l'ancien mentor des Sex Pistols, qui mise sur son nouveau groupe, Adam and the Ants. Sa copine Vivienne Westwood, créatrice de mode, donc les affuble de costumes inspirés des films de pirates. Ils se maquillent, ils cultivent leur ambiguïté sexuelle, triomphent dans les boîtes branchées. Adam est vite viré, remplacé par une jeune immigrée de 14 ans, Annabelle Atlouin, et le groupe de McLaren s'appelle désormais Bow Wow Wow. Boy George, d'ailleurs, y fait ses débuts. Bow Wow Wow passe pour Thatcherien, mais avec McLaren, on ne sait jamais quelle est la dose de second degré dans son cocktail. Et puis alors, vous avez Ultravox, Human League, Thompson Twins, Japan, Depeche Mode, Matt Bianco. La recette, c'est toujours la même. Electropop et rythmique qui donne envie de danser. Il faut s'éclater dans les années 80. Le nihilisme agressif des punks a été remplacé en 3 ans par un consumérisme hédoniste, un exhibitionnisme de l'outrance. Encore une fois, il faut s'éclater. Pour évoquer l'esprit de l'époque, j'ai choisi dans la liste des 100 disques essentiels de la New Wave commentée par Sylvain Fanet dans son livre qui s'appelle, je le rappelle, Standing on the Beach, mais c'est en français, hein. J'ai choisi Tainted Love de Soft Cell. Soft Cell, c'est encore un duo. La machinerie électronique, vous l'entendez, est en train de démontrer qu'on peut remplacer tout un groupe de rock par un simple synthétiseur et une boîte à rythme. N'est-ce pas Eurythmics ? Beaucoup de chansons de cette époque évoquent la difficulté qu'il y a à vivre son homosexualité dans l'Angleterre de cette époque. C'est le thème de Small Town Boy de Bronski Beat qui est un petit peu le même genre et la même époque. Très présent aussi ce thème chez Soft Cell qu'on entend en ce moment. Eh bien, la fin de l'histoire, c'est que le sida allait vider toute cette scène en tuant nombre de ses plus talentueux musiciens, mettre fin prématurément à la party et provoquer la fermeture des clubs branchés dans la deuxième moitié des années 80. Et ça sera la fin de la New Wave.
La New Wave en 100 disques essentiels, Sylvain Fanet, ça vient de paraître. Merci beaucoup Brice Couturier.